comme nous avons cet après-midi, par c'est un slogan, on pourrait dire, que j'aime dire, mais qui pour moi revêt une réalité, c'est que l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est de la dynamite. C'est une puissance qui est capable de transformer les vies, qui est capable de bouleverser nos quotidiens, capable de changer notre être intérieur. Et si ça change notre être intérieur, c'est capable de changer même nos relations de couple, de famille, au travail. Quand Jésus vient bouleverser nos vies, ça change complètement notre vie. Amen. Et ça, c'est la réalité de l'évangile, de la parole de Dieu. Vous avez entendu ce que Naomi a dit. Elle a dit ceci: je crois en Dieu depuis toujours. Et c'est bien, c'est une bonne chose. C'est ce que disent beaucoup de personnes. Mais la question, c'est: est-ce que croire en l'existence de Dieu ou d'un Dieu est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Si je fais partie même d'une église, comme celle-ci ou une autre, avec un nom, le nom d'une dénomination ou d'une grande religion, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que passer par les eaux du baptême comme cet après-midi, comme Naomi, ce qu'elle a fait, ou autre, c'est suffisant, c'est important, mais est-ce suffisant? Alors permettez-moi de vous illustrer ce que j'aimerais vous dire cet après-midi par une petite image. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur l'aéroport de Marignane en tant qu'agent commercial au sol à Air France. C'est-à-dire que si vous veniez à l'aéroport, voilà, vous me montriez vos billets, vous me montriez voilà, les bagages, etc. Qu'est-ce que vous pensez que je dis à quelqu'un qui vient, qui va au soleil, il est déjà prêt, il a déjà les lunettes de soleil, le chapeau, il a déjà bien habillé, il a ses valises, il me pose ses billets sur le comptoir, et là, il me dit: bon, mais c'est bon, je peux y aller maintenant, allez, embarquez-moi. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Vous avez déjà pris l'avion? Il y en a, ils reviennent là-bas du soleil. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il vous faut? Un passeport, une pièce d'identité. Si vous n'avez pas de passeport ou pièce d'identité ou même un visa, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes bien, vous avez l'impression d'être bien préparé. Mais il vous manque une chose importante. Et cette chose importante, c'est votre pièce d'identité qui montre que c'est bien vous et que vous pouvez bien aller, que vos papiers sont en règle pour aller. Et j'aimerais vous dire cet après-midi, avez-vous la chose la plus importante dans votre cœur? Peut-être vous avez une croyance, une religion, peut-être vous êtes passé déjà même par quelque chose qui ressemblerait au baptême de cet après-midi, et c'est une bonne chose et on se réjouit pour cela. Mais avez-vous la chose la plus importante? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? Et c'est cela ma question cet après-midi. Et c'est une interpellation dans la parole que l'on trouve dans le livre d'Amos, un prophète de l'Ancien Testament, et qui dit ceci. Il dit, Amos chapitre 4 et au verset 12, dit ceci, et c'est comme un appel, c'est comme si Dieu nous interpellait cet après-midi: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Vous savez, Dieu est au commencement de tout, de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Certains, peut-être au milieu de nous cet après-midi, vont dire ou peuvent dire: mais moi, je crois que ce que je vois. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que cette affirmation-là, elle est vraie? Est-ce que on croit vraiment que ce qu'on voit? Est-ce que vous croyez dans le coronavirus? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ah, vous allez dire non et oui. Non, on n'a pas vu le virus, mais par contre, on a vu son effet. On a vu les conséquences qu'il a sur un corps. Vous êtes d'accord? On le voit. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est pareil avec Dieu. On ne le voit pas, mais quand il est dans un cœur, il y a des conséquences. Quand il agit dans notre vie, il y a des conséquences, il y a des choses qui sont visibles. Ça s'entend, ça se voit, et même ça se reconnaît. Donc Dieu peut-être est invisible à nos yeux, mais quand il vient dans un cœur, quand il vient dans une vie, ça se voit. Amen. Alléluia. Et c'est une réalité, parce que, comme dit un chant, quand Jésus devient le maître de notre vie, tout change, et c'est là une réalité. Dieu est au commencement de ce qui est bon. Et c'est toujours lié à sa parole. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que dans la Genèse, c'est Dieu qui, par sa parole, est au commencement. Et par cette parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu cet après-midi. Dieu voudrait peut-être faire un commencement dans la vie de quelques-uns, ou même d'une seule personne au milieu de nous. Il voudrait y mettre de la lumière. Et vous savez que sans la lumière, il n'y a pas de vie possible. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de vie possible. Et Jésus voudrait, par sa parole, mettre de la lumière dans nos cœurs, nous éclairer, nous montrer si ce que Naomi a dit, c'est juste un effet psychologique ou je ne saurais quoi, ou si c'est la réalité dans le cœur, dans son cœur et dans sa vie. Vous savez, Dieu est celui qui veut se révéler à chacun d'entre nous. Moi, je bénis Dieu pour cet après-midi. Et pendant que je repensais au témoignage, je me dis, mais Dieu est au commencement de tellement de vies. Dans la Bible, nous le voyons. Mais ici, plusieurs pourraient venir derrière ce micro, comme moi-même dans ma propre vie, pour dire, vraiment, nous n'avons pas été des sympathisants d'une religion, mais nous avons rencontré un Jésus qui a entendu le cri de nos cœurs, qui a vu le vide de notre cœur et qui est venu à notre rencontre pour transformer nos vies, pour venir nous remplir, nous combler, pour venir nous conduire, pour venir nous bénir, nous remplir d'amour. Amen. Et ensuite, la conséquence, c'est de venir dans un lieu comme celui-ci, mais j'allais dire, c'est on y vient parce qu'on l'a rencontré. On vient partager parce qu'on a eu une communion avec lui. Un jour, il s'est révélé à nous comme quelqu'un qui est vivant. Amen. Dieu, par sa parole, est capable de tellement, tellement de miracles. Un jour, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, cette association qui s'appelle les Gédéons, qui était là à un lycée et distribuait ce qu'on appelle des petits évangiles bleus. Et il distribuait aux lycéens en leur disant, voici, c'est la parole de Dieu, votre vie peut changer, vous pouvez rencontrer Jésus avec cette parole, préparez-vous, tenez. Et il y en a qui se moquaient, il y en a qui le prenaient et qui le mettaient dans la poche. Et parmi ces lycéens, il y a eu un lycéen qui a pris ce petit évangile et il l'a regardé comme cela et quelques secondes après, alors qu'il avait tourné le dos à ceux de cette association, il l'a jeté dans une poubelle. Sauf que dans la poubelle, il y avait un SDF. Il l'a reçu sur la tête, il a pris l'évangile, il a ouvert l'évangile et il a découvert ce Jésus dont Naomi a parlé et ce Jésus dont on vous parle. Et Jésus a transformé sa vie, il l'a sorti des rues. Lui a permis de se marier, lui a permis de trouver un travail, il lui a permis de rejoindre une église. Parce que quand Jésus vient dans une vie, tout change. Amen. Je me souviens de ce jeune homme qui était d'une famille française, mais qui ne connaissait pas forcément de religion et il s'est intéressé à l'islam. Et ce jeune homme va pendant quelques années suivre l'islam, faire les prières de l'islam. Il passait devant notre église à Béziers et quand il passait, parce que notre église à Béziers, elle est juste à côté d'une mosquée. Voilà, hein, c'est nos voisins. Et il passait devant l'église et il disait, mais ils sont fous ces gens-là. Et il allait. Mais sauf que ce jeune homme, à un moment donné, il était mal à l'aise. Il ne trouvait pas dans sa pratique, dans ce qu'il faisait, une satisfaction personnelle dans son cœur. Et un jour, il a rencontré un chrétien qui n'était pas de notre église, d'une autre église de Béziers, qui lui a donné un évangile, qui l'a invité à venir à une réunion comme celle-ci. Il est venu, il a entendu parler de Jésus, il a suivi pendant quelques temps. Et finalement, voilà, il y a des choses qui se sont... Rien ne s'est passé vraiment, mais sa vie est devenue de pire en pire. Alors il est revenu à la Bible, il a commencé à lire la Bible, il a dit, mais si Dieu, tu es le Dieu de l'islam, révèle-toi. Si tu es le Dieu des chrétiens, révèle-toi. Et vous savez quoi? Dans la nuit, il a eu un rêve. Il a vu un homme de blanc vêtu qui lui a dit, qui s'est révélé à lui comme ce Jésus qui est vivant et que nous vous annonçons cet après-midi. Et on a eu la joie au mois de janvier de le voir aussi passer dans les eaux du baptême. On n'est pas en train de vous dire d'être adepte d'une religion, on est en train de vous dire que Jésus est vivant et peut transformer votre vie. Et que son appel cet après-midi, c'est d'être prêt à rencontrer Dieu. D'être prêt à partir avec lui quand il reviendra. Et c'est là ce que nous croyons. Ici, dans ce contexte de Amos que je vous ai cité, que c'est au peuple d'Israël que Dieu parle. Un peuple que Dieu a choisi. Un peuple que Dieu a aimé. Mais voici cette même nation, malgré l'amour et l'affection de Dieu, bien, s'est détournée de Dieu, s'est livrée à de l'idolâtrie, au penchant de son cœur. Et vous savez, ce qu'un homme sème, il le moissonne tôt ou tard. Il le moissonne tôt ou tard. Des fois, ce n'est pas de suite, mais ce qu'on sème tôt ou tard, on le récolte. Celui qui sème le vent, il récolte la tempête à un moment donné. Et Israël, en se détournant de ce que Dieu leur avait recommandé, même peut-être en continuant de croire en son existence, mais en lui tournant le dos, voilà que, eh bien, le salaire du péché, c'est-à-dire se détourner de Dieu, vivre dans l'indépendance de Dieu, sans se préparer à cette rencontre même avec Dieu, eh bien, voici la colère à venir, eh bien, était près d'arriver. Il y a comme si la patience de Dieu arrivait à une limite. Et j'aimerais vous dire, la Bible dit qu'en ce moment même, Dieu use de patience. Il use de patience, voulant que tous arrivent à la repentance et qu'aucun ne périsse. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La preuve en est, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Et quand il dit le monde, c'est chacun de nous, dans notre individualité, dans nos personnes, qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas simplement une vie dans le ciel, mais déjà une qualité de vie dans son cœur ici-bas, au milieu de la maladie, au milieu des guerres, des bruits de guerre, au milieu des problèmes, au milieu des soucis, au milieu de toutes ces choses difficiles par lesquelles nous pouvons passer, nous ayons cette qualité de vie qui est la vie éternelle, qui est Christ lui-même, dans nos cœurs et dans nos vies. Ça, c'est ce que Dieu propose. Quand il dit « prépare-toi », il use de patience. Et quand on regarde dans l'original de ce mot, on voit que c'est « il ne perd pas courage ». Il persévère patiemment en endurant. Il est patient en supportant offense et injure des autres. Ça, je me dis, gloire à Dieu, hein. Quand il regarde l'humanité, Dieu est patient envers nous. Des fois, on ne veut pas de lui, mais Dieu nous cherche, continue de nous chercher, continue de nous interpeller. C'est être doux et lent à la vengeance, à la colère, lent même à punir. Oh, moi j'aime cela, parce qu'on a présenté tellement de temps un Dieu qui était prêt à punir la moindre de nos fautes. Mais loin de là, qui vivrait si Dieu nous châtiait selon nos fautes? Personne ne pourrait subsister à compter par moi le premier, parce que je suis loin d'être parfait. Et si je suis sauvé, ce n'est pas parce que je suis parfait ou parce que j'ai le titre de pasteur. Non, c'est parce qu'un jour Jésus a eu pitié de moi et qu'il est venu dans son amour toucher mon cœur. Il est venu exprimer cet amour qui croit tout, espère tout. Et c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà impatient, mais la Bible dit que Dieu est patient. Il est persévérant, il cherche, il est venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Quand on regarde à cette guerre, je ne sais pas ce que vous en pensez, à des hommes qui sont capables de se faire du mal comme cela, dans nos actualités, on dit, mais pourquoi? Pour des bouts de terre? Pour quelques richesses matérielles? La vérité, c'est que le cœur de l'homme est mauvais. Et que, en vérité, l'humanité mériterait même d'être punie si Dieu est juste. Parce que nous ne sommes pas bons. Moi, je ne suis pas quelqu'un de forcément bon en moi-même. On est capable du meilleur, mais n'est-ce pas vrai que nous sommes capables du pire? On est capable de dire « je t'aime à la folie » et dans les deux secondes d'après, de dire « je t'aime pas du tout » ou de dire des mots qui sont à l'inverse de « je t'aime ». Ça, c'est le cœur de l'homme. Comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Alors, c'est sûr, on est capable de faire le bien quand c'est réfléchi, quand on est touché, mais quand on est malmené, quand une voiture nous coupe la route, quand la caissière va doucement, quand on subit une injustice au travail, est-ce qu'on est capable de bonnes choses, de rendre le bien pour le mal qu'on nous fait? Ce n'est pas dans le cœur de l'homme. On ne peut pas le faire naturellement. Nous sommes foncièrement mauvais et Dieu use de patience parce qu'il voit ce cœur mauvais. Et il interpelle, il m'interpelle, il nous interpelle, il interpelle les hommes en disant « j'ai donné mon fils unique afin de transformer vos cœurs. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même, malgré vos bonnes résolutions, malgré toutes les choses honnêtes et sincères que vous voudriez mettre en place. Vous ne pouvez pas. Mais j'ai donné mon fils afin que votre cœur soit transformé. Afin que si vous le laissez rentrer, lui, Il balaye ce qu'il y a de mauvais dans le cœur, il range ses cœurs, il remet en ordre, il met les bonnes priorités dans vos vies, et alors vous serez rendu capable de faire des choses que vous ne soupçonnez même pas, qui sont au-delà de ces choses naturelles qui viennent de nous. Dieu use de patience, et cette patience, c'est notre salut. Une fois de plus, ici, nous voyons par Amos que Dieu parle à Israël, et une fois de plus, je crois, cet après-midi, parce que certains au milieu de nous, j'en suis convaincu, ont déjà entendu l'appel de Dieu et l'entendent une nouvelle fois. Prépare-toi, sois prêt, aie cette assurance dans ton cœur. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu ne nous a pas amenés à l'existence pour que nous soyons destinés à la colère, mais il est dit, il nous a destinés au salut. Au salut, à être sauvé, à vivre cette vie éternelle. Il y a dans cet appel un cri de la part de Dieu, un cri comme une urgence, un cri comme pour nous détourner de toutes ces choses dans lesquelles nous sommes quotidiennement. Nous avons pris le temps de venir cet après-midi dans ce lieu pour par affection, par amour, pour Naomi, pour ce moment. Et c'est bien, mais après, on va repartir. La nuit va passer et lundi matin, ça va recommencer. Non ? On va se lever pour aller au travail. Pour reprendre le travail après une semaine de vacances, pour certains. Est-ce qu'on va repartir dans les mêmes choses, les mêmes travers, le même cœur, la même vie, dans notre vie de couple, la vie de famille, avec le patron, avec les collègues, avec les employés ? Un jour, deux jours, un mois, un an, jusqu'à quand ? Cet après-midi, le Seigneur il dit, prépare-toi, je suis là, je tends mes mains encore une fois, j'appelle encore une fois dans mon amour et je désire tellement que ça change. Comme Naomi a dit à un moment donné, je ne veux plus de cette vie-là, j'en veux plus, je veux quelque chose d'autre. Et j'ai entendu qu'il était possible de vivre autre chose avec Jésus. Cet après-midi, Dieu tend les mains, il le fait entendre par sa voix. Dieu ne veut pas notre perte. Mais il veut notre bonheur, il veut notre bénédiction, afin que nous soyons aussi des sources de bénédiction, comme eh bien, le pasteur M. Ferris a prié pour Naomi. Du côté de Dieu, tout est prêt. Je ne sais pas si nous sommes prêts, mais en tout cas, du côté de Dieu, la Bible nous dit que tout est prêt. Il y a une parabole que Jésus va donner. Eh bien, dans la Bible, c'est dans Matthieu 22 où là, il demande à ses serviteurs de faire exactement ce que je fais et ce que nous faisons cet après-midi au travers des musiciens, du chantre, moi-même, Naomi, en rendant ce témoignage, il les envoie dans les rues, il dit, voilà, allez dire aux invités, allez dire aux gens que tout est prêt. Tout est prêt. De mon côté, c'est le roi, il envoie ses serviteurs, il dit, mais voilà, tout est prêt. De mon côté, tout est prêt. Vous savez, Jésus a dit sur cette croix, tout est accompli pour nous, pour le salut, pour que nous ayons de l'espérance, pour que la mort ne soit pas comme une finalité, là, non seulement la mort physique, mais j'allais dire ça ne soit pas la fin de toute chose. On dit, voilà, je vis, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais qu'on comprenne que derrière, il y a un enjeu éternel, l'enjeu de nos âmes. Tout est prêt. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore loin de lui, peut-être on ne pensait pas à lui, peut-être on n'entendait pas sa voix, peut-être on a tourné le dos, peut-être on n'a pas eu égard à ces choses. Mais Dieu a quand même livré sa vie pour nous. Il a tout accompli pour le pardon, la réconciliation, la guérison, la restauration, la délivrance, l'adoption, tout est prêt. Tout est prêt. Il y a dans la Bible un passage que j'aime énormément, c'est la parabole du fils prodigue où eh bien, un fils va demander l'héritage à son père et va partir au loin, il va dilapider ses biens. En partant au loin même, il dit, donne-moi mon héritage, et même si tu dois mourir, mais moi ce qui m'importe c'est l'héritage que tu as pour moi. La bénédiction que tu as mis de côté, il la prend, il s'en va loin, il la dilapide d'une manière excessive. Il va se retrouver sans rien, il va se souvenir après. À un moment donné que son père, dans la maison de son père, il y a l'abondance alors que lui il vit la misère. Il va dire, je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il y a dans son cœur comme de la repentance. Il réalise que ce qu'il vit, c'est à cause de ses choix. C'est à cause de ses pensées, à cause de ses désirs, à cause de ses peut-être mauvais compagnons, à cause de la vie qui était là. Mais il dit, mais voilà, dans la maison de mon père, il y a de l'abondance. Au moins, je vais pouvoir survivre. Et il va faire le chemin inverse. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il va arriver. Et la Bible nous dit que le père était déjà prêt à le recevoir. Il le voit de loin. Il court à sa rencontre. Il le prend dans ses bras. Il va le faire rentrer et il va dire même à ses serviteurs, « L'agneau gras qu'on a mis de côté, sortez-le. Mon fils qui était perdu maintenant est retrouvé. » Le Père est prêt à nous recevoir. Et quand bien même on ferait partie de ces hommes, ces femmes qui ont entendu peut-être depuis tout jeune, même la voix du Père et on s'en est éloigné, si cet après-midi vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Père est prêt et il te dit, prépare-toi, est-ce que toi tu es prêt à le rencontrer? C'est le bon moment, c'est le bon instant. Comment être prêt? En reconnaissant que Jésus c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Nul ne vient au Père, à Dieu, que par lui. Vous m'avez entendu? C'est que par lui, c'est que par Jésus. Cette rencontre avec Jésus. Cet abandon au pied de Jésus, en reconnaissant que la seule solution pour nos vies humaines, pour vivre en paix, pour vivre béni, et pour avoir l'assurance que le jour où nous mourrons, nous irons dans un endroit encore meilleur avec Dieu, c'est Jésus, c'est le seul. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom, nous dit la parole de Dieu, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Connaître Jésus et son message, qui est que nous avons besoin de venir à lui avec nos cœurs mauvais, avec nos vies, parfois religieuses, mais tellement à l'opposé de ce que la Bible dit. Venir avec un cœur repentant. Connaître Jésus et son œuvre à la croix où son amour est manifesté pour ce changement de cœur, pour que nous ayons cette identité en Christ en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions avoir notre passeport pour le ciel, le pardon de nos péchés et une réconciliation avec lui. En reconnaissant que à la croix, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris et que le châtiment, la colère qui devait venir, elle n'est pas venue sur nous, mais elle est tombée sur lui afin que nous ayons la paix. Connaître Jésus et sa résurrection, parce que s'il n'était pas ressuscité vivant, c'est-à-dire tout ce que nous faisons cet après-midi est vain, serait vain. Mais c'est parce qu'il est vivant, il est réel, que nous pouvons parler de lui. Et ça nous donne une véritable espérance. Nous savons, l'apôtre Paul disait ceci, et je crois que c'est là l'assurance. J'espère que tu l'as, cette assurance, mais j'en suis sûr même. Que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer. C'est quelque chose qui est devenu dans nos cœurs. Laissez-moi vous dire, nous n'irons pas tous au paradis. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Seuls ceux qui ont fait la paix avec Dieu, seuls ceux qui se sont préparés, seuls ceux qui ont fait cette alliance avec Dieu iront au ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, s'est donné pour tous et que les mains tendues sont envers tous cet après-midi. Le message au temps d'Amos pour Israël était là pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il soit sauvé. C'est le même message qui est adressé encore pour nous parce que le cœur de l'homme demeure le même. Quels que soient les temps, les âges ou les continents, il demeure le même. Et Dieu voudrait nous prendre à l'abri sous ses ailes, comme il voulait prendre Jérusalem. Mais maintenant, c'est notre choix. À Jérusalem, il lui a dit, mais Jérusalem, Jérusalem, ô Israël, j'ai tellement voulu te rassembler et te mettre sous mes ailes, comme une poule met sous ses ailes ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est exactement ce que Jésus dit quand il dit, prépare-toi, viens te mettre à l'abri sous mes ailes. De la colère à venir. Viens te mettre tout contre moi où tu ressentiras la chaleur de mon amour, la protection que je veux mettre dans ta vie, sur ta vie. Mais le veux-tu? Le veux-tu? Il a tout accompli. Tout est prêt du côté du Père. Alors l'invitation, elle est là pour vous, pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Et Dieu ne le dit pas avec colère, mais il le dit avec comme une instance, comme une supplication, même dira l'apôtre Paul, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez prêts à cette rencontre avec Dieu. En tout cas, Dieu a les mains tendues cet après-midi vers chacun d'entre nous. Et son désir, c'est de pouvoir prendre dans sa main vos destinées. C'est de prendre vos péchés, de les jeter, non pas au fond de l'eau, mais même la Bible nous dit au fond de la mer, afin qu'on les replèche plus du tout. Afin que les choses passées deviennent réellement passées et qu'avec lui, tout commence à devenir nouveau. Une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, une nouvelle espérance, un nouveau cœur, de nouveaux sentiments. Les blessures, il les guérit. Nos caractères, il les transforme petit à petit et il nous donne une véritable espérance. Une véritable espérance, c'est que là où il sera, il nous accueillera et nous pourrons rentrer avec lui. Et nous serons inscrits dans le livret de famille, je présenterai ma pièce d'identité. Le jour de ce voyage, il dira, tu es inscrit dans le livret de famille, tu peux rentrer. Entre maintenant dans la joie de ton maître. Et cette identité-là, il veut la donner à chacun. On va peut-être avoir un moment de recueillement, peut-être pendant que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît. J'aimerais, avec eux, prendre un dernier chant qui nous dit ceci, qui nous dit, il te tend la main. Encore une fois. Et je crois que Dieu tend ses mains cet après-midi. Et pendant simplement qu'on prend ce chant, il te tend la main, eh bien, que nous puissions réfléchir, chacun personnellement, à cet appel de Dieu. Ce que Naomi a témoigné cet après-midi, c'est accessible pour tous. C'est quelque chose que Dieu voudrait manifester par son Saint-Esprit à nos cœurs. On peut simplement, nous aussi, eh bien, parler à ce Jésus qui pourtant est invisible à nos yeux, mais qui est là dans ce lieu. Et dire, mais moi aussi j'aimerais savoir si tu es vivant, si moi aussi je suis aimé, si aussi tu peux faire quelque chose pour moi, pour ma vie. Le Seigneur est là, il te tend.